Vous écoutez les podcasts de L'Homme Nouveau. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site hommenouveau.fr.
Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Merci d'être présent pour cette troisième épisode de la sixième saison de ce club en vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons en quelque sorte d'un mantra, d'une phrase répétée comme une évidence que nous avons entendue après la visite du pape François à Marseille il y a quelques semaines. Nous avons voulu prendre un peu de recul pour décrypter en quelque sorte cette phrase qui veut qu'il n'y ait pas de rupture entre le discours du pape François sur les migrants et son immédiat prédécesseur, le pape Benoît XVI. Et nous élargirons d'ailleurs ce sujet à ses autres prédécesseurs, les autres papes, pour savoir comment ils ont évoqué ce thème de l'immigration, s'ils l'ont évoqué et comment ils l'ont traité. Pour élucider cette question, je reçois aujourd'hui l'abbé Hervé Benoît qui opère ainsi son retour parmi nous.
Merci Philippe.
Bonjour monsieur l'abbé.
À tous nos auditeurs.
Je reçois également l'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes.
Qui attendaient que je dise un peu autre chose, mais c'était la surprise du jour. Le père d'Anziac.
Bonjour à tous.
Et notre ami Laurent Dandrieux qui nous fait le plaisir d'être présent parmi nous aujourd'hui.
Bonjour à tous.
Alors pourquoi est-il présent? Eh bien parce que vous le savez, il est l'auteur d'un ouvrage remarqué qui a fait beaucoup parler de lui, Église et immigration, le grand malaise, sous-titré ni plus ni moins, Le pape et le suicide de la civilisation européenne. C'est au cœur même du sujet que nous voulons traiter. Mais je voudrais aussi signaler un livre un petit peu plus ancien, celui de l'abbé Grégoire Cellier, qui piave d'impatience, qui s'intitule, un petit livre, livre de poche, qui s'intitule donc « Un regard chrétien sur l'immigration », monsieur l'abbé, c'est bien ça hein?
C'est tout à fait ça, oui.
Alors messieurs, je vous donne tout de suite la parole, et peut-être Laurent, puisque vous avez exploré largement les discours pontificaux de ces derniers temps sur la question de l'immigration. Est-ce que pour vous, il y a une continuité ou une rupture entre le pape François et son prédécesseur sur cette thématique?
Alors pour moi, il n'y a pas véritablement de rupture sur le fond, éventuellement des inflexions, sauf à considérer que le changement de position du curseur sur une question donnée constitue en soi une rupture. C'est-à-dire que je pense que les positions du pape François sur le fond de cette question migratoire sont dans la continuité, effectivement, d'un certain nombre de biais qui faussent la vision de l'Église sur cette question. Depuis l'origine, c'est-à-dire depuis que l'Église se préoccupe réellement de ces questions-là, c'est-à-dire depuis les années 50. Ensuite, il manifeste évidemment sur ces questions un intérêt tout à fait insistant, pourrait même qualifier d'obsessionnel, qui fait que son message est martelé de manière tout à fait obsédante. Et de fait, ça donne une tonalité tout à fait différente à ses prises de parole. Et par ailleurs, effectivement, il le fait avec son mode à lui, c'est-à-dire des formulations qui peuvent paraître souvent très à l'emporte-pièce, qui donc balayent un certain nombre de précautions, un certain nombre de nuances, qui sont présentes par ailleurs dans son discours, mais qu'on n'entend plus. Alors je vais prendre un exemple très concret de ça, c'est-à-dire que le pape vient d'aller à Marseille et tout le monde a retenu effectivement qu'il appelait l'Occident à une ouverture très large des frontières. Il se trouve qu'au lendemain de ces déclarations avait lieu la journée mondiale du migrant et du réfugié, à l'occasion de laquelle, traditionnellement, le pape publie un peu à l'avance un texte qui est diffusé et notamment mis en ligne sur le site du Vatican. Et donc ce texte, cette année, insistait très largement, de manière assez inédite pour le pape François, c'est quelque chose dont il parlait éventuellement, mais rarement, ce texte insistait beaucoup sur le droit des personnes à ne pas migrer, à rester sur leur terre, à y vivre en situation de prospérité et de sécurité. Et donc ça n'a pas eu beaucoup d'écho. Parce que effectivement, il y a l'ampleur médiatique du voyage à Marseille qui a tout balayé. Donc c'est beaucoup une question de curseur, c'est beaucoup une question d'insistance, et puis c'est une question aussi de pousser les choses à chaque fois un peu plus loin que ses prédécesseurs, tout en restant dans la même lignée.
Si je comprends bien, c'est plus une question de forme que de fond. Le fond resterait le même, avec une assistance beaucoup plus forte.
Oui.
Un ton
les
différent.
Les présupposés restent les mêmes. Quand je parle de curseur, ce n'est pas uniquement sur le volume, je dirais, mais c'est aussi sur les conséquences de cette vision globale. La vision globale reste la même et François pousse les conséquences un peu plus loin, notamment quand il réclame des droits égaux pour tous les migrants. Qu'ils soient légaux ou non légaux, comme il l'a fait dans un précédent message pour la journée des migrants.
C'est effectivement, française.
C'est quelque chose qui n'avait pas été dit. Après, on n'est pas effectivement, on est dans cette continuité de la vision initiale de l'Église sur cette question, qui fait que cette question n'est envisagée toujours que du point de vue des migrants, que le point de vue des sociétés d'accueil est toujours subsidiaire, secondaire et évoqué quand il nous reste un peu de temps d'antenne, si je puis dire.
Moi, je rejoins Laurent Dandrieu sur l'analyse. Il me semble, en fait, pour résumer, qu'il y a peut-être deux sujets. Il y a d'abord la place du sujet de l'immigration et des migrants dans la parole pontificale du pape François. Autant le pape Jean-Paul II était très certainement le pape de la défense de la vie. On pourrait résumer que le pape Benoît XVI était le pape de la liturgie. Et on peut supposer, en tout cas en observant les discours du pape François, que le pape François est un peu le pape des migrants.
Et voilà, du
climat, mais là en l'occurrence, voilà, plus la question des migrations. Donc, le en volume, dans la parole pontificale du pape François, très certainement, ce sujet est insistant. Et ensuite, il y a la place du sujet des migrations, en deux mots, dans le contexte géopolitique sous le pontificat du pape François, qui n'a pas du tout la même place qu'elle pouvait avoir sous le pontificat du pape Benoît XVI, puisque depuis 2014, le phénomène des passeurs, des bateaux, de migrants a complètement explosé. Encore récemment, on l'a vu à Lampedusa. Lampedusa, d'ailleurs, où le pape François avait effectué un premier déplacement assez médiatisé. Donc voilà, je crois qu'il y a un peu ces deux choses qu'il faut bien considérer, à la fois la place de ce sujet dans la parole du pape François et la place de ce sujet dans l'actualité occidentale et mondiale même depuis 2014, qui peut-être peut laisser penser l'observateur non avisé qu'il y a un nouveau prisme chez le pape François. Mais sur le fond, il y a quand même, dans la ligne du pape Benoît XVI, et puis finalement même d'avant, depuis en fait que l'Église s'intéresse de plus près à ce sujet, à mon sens, et c'est peut-être le sujet qui pourra nous intéresser lors de nos échanges, qu'il y a quand même une place importante qui est réservée à la question individuelle, au mépris, en tout cas, qui tend à donner une place un peu plus discrète aux droits des peuples et du bien commun en général. Voilà, c'est toujours la même chose. En fait, qu'est-ce qui prime ? Est-ce que c'est le droit individuel ou est-ce que c'est le droit des peuples ?
Monsieur l'abbé Cellier, Laurent Dandrieu, au début de son intervention, est remonté jusque dans les années 50 pour dire qu'il y avait une sorte de continuité dans les messages pontificaux sur ce sujet. Les années 50, ça nous ramène à Pie XII, sauf erreur de ma part. Il y a vraiment pour vous une continuité dans le discours pontifical ?
Alors d'abord, rappelons que Pie XII est l'auteur de la grande constitution Exul Familia qui, je dirais, donne le cadre général donc de la doctrine sur la migration. Moi, je pense que dans la doctrine des papes, il y a effectivement des constantes, et je pense aussi qu'il y a un infléchissement progressif après Vatican II. Rappelons quand même que Paul VI n'est pas le pape François. Le discours de Paul VI n'est quand même pas du tout le même que celui du pape François, mais enfin petit à petit. Et cet infléchissement, c'est en fait le fait que antérieurement à Vatican II, les papes, et notamment Pie XII, hein, parlaient de la charité individuelle et de la charité politique. Donc, effectivement, des individus qui migrent et du bien commun dans son ensemble. Et petit à petit, c'est la charité individuelle qui a pris le pas et qui a fait oublier la charité politique. Or, la charité politique est plus divine, aurait dit Aristote, que la charité individuelle parce qu'elle porte sur des biens plus hauts et qui se diffuse à plus de personnes. Et là, effectivement, il y a je dirais, dans cette évolution qui en partie est liée au fait que je dirais, en fait, quelqu'un comme Pie XII ne connaissait pas, je dirais, les énormes migrations. Parce que les énormes migrations, c'est les États-Unis, avec les Irlandais et les Italiens, mais c'est un pays qui était quasiment vide. Et puis les déplacements forcés de population, notamment les populations allemandes chassées par les Soviétiques, mais qui revenaient dans un pays avec la même langue, la même culture, la même histoire. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des migrations massives, je dirais tous les jours, massives, c'est-à-dire de centaines de milliers, de millions de personnes qui ouvrent des nouvelles perspectives, à la fois dans lesquelles il faut intervenir plus que dans le passé, et à la fois où il faudrait plus tenir compte de la charité politique, ce qui est effectivement le biais un petit peu tragique de l'enseignement actuel des pontifes.
Monsieur Lavé et Benoît, je vous ai entendu, si je puis dire, si vous me passez l'expression, sourire à l'évocation de par l'abbé Cellier de Vatican II comme ligne de rupture, si je puis dire.
C'est une date plutôt qu'une doctrine.
Alors moi, je serais beaucoup moins généraliste que mes confrères et les personnes ici présentes. Je partage globalement leur point de vue. Moi, je voudrais juste ajouter quelques petites choses, parce que je pense qu'il y a aussi un point de vue de focal. Notre cher pape, le pape François, n'est pas un théologien. Ça n'est pas un homme qui... Moi, je le vois sans cesse comme le bon curé de paroisse qui tente de... de transmettre un certain nombre de choses de base, parfois un peu contradictoires, parfois un peu opposées, dans des phrases simples, sur des choses simples. Par exemple, moi j'ai retenu dans son discours de retour de l'avion, sur lequel j'avais parfois des propos un peu moqueurs, mais vous voyez, quand il dit...
Retour de Marseille, vous voulez dire ?
Oui, quand il rentre de Marseille, voilà, il exprime à sa façon de curé de campagne universelle. Il dit le trafic des migrants, c'est une horreur, ce sont des esclaves, c'est la terreur. Et puis il termine comme ça, si tu ne peux pas l'intégrer, il parle donc des personnes migrantes, si tu ne peux pas l'intégrer dans ton pays, accompagne-le, intègre-le dans son pays. Mais ne le laisse pas entre les mains de ces cruels trafiquants d'êtres humains. Donc il y a un point de vue focal aussi sur est-ce qu'on va s'intéresser au fond des choses ou les rappels de bon sens que le pape fait sur les éléments essentiels, le trafic d'êtres humains, la nécessité du développement dans les pays d'origine, etc. Il n'a jamais le souci de prendre le problème dans son ensemble et d'en faire une synthèse. Et je termine juste par un autre détail qui me paraît fondamental. Le pape François est un petit-fils d'immigrés d'un pays, l'Italie, qui a vécu un phénomène migratoire, comme disait l'abbé Cellier, gigantesque, qu'on ignore d'ailleurs dans son ampleur, et d'un pays neuf, l'Argentine, qui s'est constitué sur l'immigration. Il a forcément un point de vue qu'un aristocrate italien comme Pie XII ne pouvait pas avoir. Ce qu'il a, on imagine, dans la maison familiale, la mamma racontant le départ, la misère, la pauvreté, la faim, etc. Donc voilà, je viens juste rajouter ces petits points de vue pour montrer que il y a aussi un problème de focal. Qui parle, comment il parle et pourquoi il parle.
Ça, en tout cas, ce que vous dites est aussi, je pense, quand même souligne un problème. C'est que si le pape a des paroles de bon sens, de curé de campagne, on est très heureux, si vous voulez. Mais le rôle du pape, justement, c'est pas d'être un curé de campagne. Oui, c'est d'aller au fond des choses. Et pour cela, certes, le pape marque ça avec sa personnalité qui est la sienne. Mais enfin, le pape, c'est pas non plus normalement un autocrate qui gouverne juste avec son esprit. Il est entouré d'un conseil, de personnes qui éclairent, etc.
Tous les documents du Vatican qui sont plus équilibrés, qui tentent à leur façon de remettre un peu d'équilibre dans
les
choses.
Oui, en même temps, dans Fratelli Tutti, il excipe de la situation de l'immigration qu'il a connue en Argentine pour expliquer que ça va être exactement la même chose, qui est un manque d'information et de lucidité assez hallucinant. Et quant à Marseille, il vient nous expliquer que Marseille est la capitale mondiale de l'intégration. Il n'y a pas grand monde qui puisse prendre cette parole au sérieux, même venant d'un curé de campagne. Je reviens un peu sur cette histoire de continuité. Il me semble qu'il y a quand même, depuis le début, cette idée qui est présente déjà chez Pie XII, cette cécité par rapport au problème d'identité culturelle. C'est-à-dire que Pie XII explique qu'il y a dans certains pays des zones qui sont désertiques, inexploitées, et d'autres où, qui sont surpeuplées, où les gens n'ont pas de terre, et on pourrait très bien déplacer les uns dans les autres. Donc il y a cette idée, et qui devient de plus en plus forte au fil des décennies, que les hommes sont tellement frères qu'ils en deviennent semblables et donc interchangeables. Et ça me paraît vraiment un aveuglement de l'Église depuis l'origine sur cette question, c'est-à-dire que faire venir des gens pour des raisons économiques n'aurait pas de conséquences culturelles. Et le pape en a donné, le pape François en a à nouveau donné un exemple. Dans l'avion en revenant de Marseille, en disant il y a en Italie plein de petits villages vides, ils n'ont qu'à accueillir des migrants, comme si effectivement faire venir une vingtaine de migrants dans un village italien éthiopien, dans un village italien qui n'a que 20 habitants, n'avait aucune conséquence. La deuxième chose que je voulais dire sur cette histoire de continuité, c'est que il y a eu effectivement une inflexion autour des années 60, un peu avant Vatican II, où cette vision de l'immigration par l'Église devient un peu messianique. Et ça, c'est déjà très sensible dans les discours de Jean XXIII, c'est-à-dire que se développe à cette époque-là l'idée que le signe des temps par excellence, c'est la marche de l'humanité vers sa nécessaire unité, ce qui est d'ailleurs dit très clairement dans Gaudium et Spes. Et donc, à partir de ça, on voit l'immigration de masse comme l'outil privilégié d'arriver pour arriver à cette nécessaire unité. Et donc, il y a une espèce de canonisation du phénomène migratoire qui devient non plus seulement un arrachement douloureux, mais aussi une espèce de levier rédempteur pour arriver à l'unité de l'humanité. Et ça explique que quelqu'un comme Jean-Paul II, par exemple, qui par ailleurs a développé une théologie des nations tout à fait passionnante et admirable, puisse expliquer que la migration est le signe par excellence du plan de rédemption que Dieu a pour l'homme. Ce qui est quand même une phrase qui, moi, m'a toujours terrifié. Et donc, je crois qu'effectivement, ce biais existe depuis les années 60 et pousse l'Église à voir le migrant comme un autre Christ, pas seulement en tant que comme personne en souffrance. Eh bien, nous sommes invités par les évangiles, évidemment, à voir en lui une figure du Christ souffrant, mais aussi en tant que rédempteur qui nous permet d'entrer dans un nouvel âge de l'humanité.
Laurent Dandrieux, je reviens sur Pie XII. Dans quel contexte a-t-il parlé des migrants? Parce que la question dans les années 50, ou en tous les cas après la Seconde Guerre mondiale, est quand même légèrement différente de celle dans laquelle nous sommes confrontés. C'est surtout des réfugiés,
c'est surtout
des peuples déplacés dus à la guerre.
C'est surtout effectivement des textes qui visent à répondre aux difficultés de populations massivement exilées suite aux conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Population d'ailleurs essentiellement chrétienne, et une partie de l'attention que Pie XII leur porte répondait d'ailleurs à leurs besoins spirituels. Donc on est dans un cadre tout à fait différent, mais il y a déjà cette idée que alors peut-être parce que ils ne voyaient pas la portée à long terme de ce qu'il disait, et qu'il ne pouvait pas imaginer qu'on puisse le transposer à d'autres situations, et notamment à ces migrations massives du sud vers le nord que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a déjà cette logique à l'œuvre de l'interchangeabilité de l'être humain qui me paraît extrêmement... Et juste pour terminer d'un mot, je crains qu'effectivement, dans l'Église, aujourd'hui, beaucoup de gens confondent le fait que nous sommes tous frères avec le fait que nous sommes tous semblables.
Ça serait intéressant. On y reviendra peut-être sur cette question, mais les Bessiliers voulaient prendre la parole.
Une des expériences qu'avait le pape Pie XII, c'est l'américanisation de l'Église catholique aux États-Unis, qui a vu arriver les Allemands, puis ensuite les Irlandais, les Italiens, et ils ont fait un gros travail d'américanisation pour que tous se reconnaissent comme membres de ce pays. Donc il y avait eu vraiment un effort. De la part de l'Église, le cardinal Gibbons, etc., avait fait tout un travail dans ce sens-là. Et donc, effectivement, le pape Pie XII, lui, je dirais, il était dans un esprit où se disait, ben voilà, les gens qui vont immigrer, comme l'ont fait mes compatriotes italiens, se sont intégrés dans une société avec la volonté d'en faire partie. Et je pense qu'effectivement, le tournant des années 60, qui est une date plus que le Vatican II en tant que tel, mais aurait dû être un complément et une attention à ces nouvelles problématiques. Et au contraire, on est parti dans une mauvaise direction. La ministre de l'Intérieur britannique, là, qui s'appelle Braverman, a déclaré dans un discours à Washington que la Convention de Genève sur les réfugiés était obsolète et ne fonctionnait pas parce que elle avait été signée dans un contexte qui était différent du contexte d'aujourd'hui. Et je pense qu'elle pose une vraie question. Et qu'effectivement, Exul Familia donne un cadre général, mais il aurait dû être complété toujours dans le registre, non seulement de la charité individuelle, mais de la charité politique, en tenant compte effectivement de ces différences de religion, par exemple, qui sont maintenant quelque chose, ces différences de culture, ce caractère massif qui demande une reprise en compte de ces éléments pour justement avoir un discours qui tienne compte de la charité politique et qui puisse effectivement permettre des choses raisonnables et non pas des choses délirantes. On nous dit l'accueil doit être inconditionnel. Je dirais Lampedusa, là, c'est un article de cette semaine, 10 000 migrants arrivent sur une île de 20 km² où il y a 6 000 personnes. Les structures s'effondrent, tout simplement. Même si l'Italie envoie des bateaux, le temps qu'ils envoient des bateaux, les gens n'ont pas à manger, etc. C'est un fait dont il faut tenir compte je dirais, ce caractère, par exemple, massif, de créer des problèmes auxquels n'étaient pas forcément confrontés ou dans des conditions différentes, par exemple un Pie XII.
Moi, je rajouterais quand même que pour contextualiser par rapport à cette parole pontificale sur la question migratoire, le contexte Pie XII, Jean XXIII s'inscrit quand même, donc on est juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a plusieurs phénomènes qui s'entrecroisent. Il y a quand même une plus grande mobilité des gens sur les territoires. Il faut se rappeler que, voilà, avant-guerre, quelqu'un qui se mariait avec une personne qui était dans un périmètre de 7-9 kilomètres autour de chez soi. Et quand on passait deux villages, on se mariait, entre guillemets, avec une étrangère, voilà, ou un étranger. Voilà, c'est selon. Parce qu'à l'époque, le mariage était vraiment une véritable altérité sexuelle. Je ferme la parenthèse. Voilà. Il y a ce phénomène déjà d'une plus grande mobilité. Il y a un phénomène aussi... un contexte politique, je pense, par rapport à cette notion de messianisme lié à la question migratoire, c'est qu'on sort quand même du désastre de la Seconde Guerre mondiale où la question nationaliste, en fait, a quand même est vue, le nationalisme c'est la guerre, disait François Mitterrand. Après coup, on voit
pas
bien...
un père de l'Église.
Non, c'est pas du tout un père de l'Église, mais on voit bien qu'il y a une sorte de crispation sur cette question identitaire parce qu'on est encore très proche dans le temps des nationalismes qui ont dévoyé et qui ont fait des milliers de morts. Et ensuite, il y a le phénomène démographique auquel aujourd'hui nous faisons face. Quand Pie XII, Jean XXIII prennent la parole, l'Afrique subsaharienne est passablement encore colonisée. Aujourd'hui, on est passé d'un continent africain qui fait 500 millions d'habitants à 1,5 milliards d'habitants. Donc, il y a une pression démographique qui est tout autre. Donc, je crois que quand on met tout cela, en fait, en faisceau, ça nous permet de comprendre que, en effet, la réalité sociopolitique, géopolitique a tout à fait changé. Et je pense que, en tout cas, moi, je le dis avec conviction, on peut regretter que justement cette dimension normalement prophétique de l'Église n'est pas anticipé un peu un regard qui puisse être modifié. Et notamment, je rejoins tout à fait ce que disait Laurent Dandrieux sur le semblable et la notion de fraternité, la notion de la passion de la ressemblance. Je crois que c'est un terme utilisé par Pierre Manant. Et non, en fait, on a une culture. Et d'ailleurs, dans l'encyclique Fratelli Tutti, il y a au numéro 53 de mémoire, le pape François dit cette chose comme ça. Il dit, il n'y a pas pire aliénation que de faire l'expérience de ne pas avoir de racines. Voilà. Et pour donner du fruit, il faut savoir d'où l'on vient, et être héritier. Et je crois que c'est pas du tout en contradiction avec la notion de charité. Quand on est catholique, spécialement quand on a la chance et la grâce, je le pense, d'être catholique français, on a un patrimoine régional, un patrimoine civilisationnel qu'il faut savoir transmettre, qui lui-même est France, mère des armes et des arts et des lois, et donc un écosystème qui est quand même favorable à l'épanouissement de la nature humaine, avec le sceau de l'Évangile.
Les propos de mon cher confrère me font penser à une chose aussi, c'est que, en effet, tout ça, et je pense que le pape François le dit à sa façon, mais il y a aussi une affaire peut-être de génération. C'est quand même un homme relativement âgé, qui effectivement a été marqué dans sa formation par la période que vous évoquez. Et l'Église a toujours du mal, lorsque les temps changent, elle est bousculée. Bon, il y a des voix prophétiques, mais il y a aussi l'institution qui peine à intégrer dans sa réflexion. Et je pense que ça va venir. Alors peut-être que ça viendra trop tard, j'en sais rien. C'est déjà arrivé que l'Église ait du mal à le temps qu'il a fallu pour réunir le Concile de Trente, pour répondre aux questions du protestantisme. La vieille institution, parfois, elle peine un petit peu à... Et puis, moi, je crois que jusqu'à la fin des temps, il y aura... Tout ce qu'a dit le père Danzier, qui est parfaitement vrai sur cet enracinement, les nations, leur vocation, etc. Mais il y aura aussi la tension catholique et universelle qu'on ne pourra jamais empêcher et qui fera qu'on sera toujours mal à l'aise entre ces deux pôles, celui de l'universalité qui fait qu'on est tous frères, de fait, et puis cette réalité humaine enracinée dans la terre. Et ça sera toujours une tension, il y aura toujours des côtes mal taillées. Et là, on est dans une période de bouleversement profond, de crise, dans laquelle l'Église, à travers le souverain pontife...
Oui, sauf que la côte mal taillée, là, elle est...
Ah oui, mais elle explose, oui, mais, à une rapidité. Les papes ont accompagné, pareil, Jean-Paul II, Pie XII, on pourrait rajouter à ce que disait l'abbé Cellier, les communications. Le fait qu'au fond d'un village d'Afrique ou de Chine ou d'Inde, on peut savoir ce qui s'est passé dans une rue à Paris dans les 10 minutes qui ont suivi... Là aussi, l'Église peine à intégrer ce fait qui est très nouveau. Ça va se faire. Moi, je suis relativement optimiste à ce niveau-là. Ça va se faire. Et puis, dernière chose, voilà, c'est saint Augustin. On le redira peut-être, mais saint Augustin, voilà, les barbares sont dans Hippone, quoi. Le monde a changé. Bah, voilà, on prendra acte et christianiser ce monde-là.
Bah, est-ce qu'il faut en prendre acte, justement, de...
C'est pas l'Église, le pape ne dirige pas le monde, donc les choses se feront avec...
Non, mais il contribue quand même largement à la marche du monde. Je pense que le discours obsédant du pape François sur l'accueil des migrants aujourd'hui est un facteur important de la passivité des opinions européennes par rapport à la véritable invasion dont le continent européen est l'objet. Donc ça me paraît assez dramatique. Je soutiens tout à fait la légitimité de l'Église à parler de tous les sujets, y compris les sujets politiques, mais il faut quand même se rappeler que l'Église est quelque chose qui s'inscrit dans le temps long et qui, effectivement, parfois met beaucoup de temps à intégrer certaines évolutions et certains phénomènes, alors que le temps de la politique se raccourcit de plus en plus. C'est-à-dire que nous vivons une époque de bouleversement tel que notre vie devient beaucoup plus... Nos grands-parents, finalement, avaient une vie qui était peut-être plus proche de celle des paysans du Moyen-Âge que de la nôtre. Et donc, c'est vrai que cette lenteur de l'Église à intégrer les phénomènes extrêmement rapides devient problématique à une époque où on a tendance à considérer de plus en plus que sa parole est équivalente, quel que soit le sujet abordé. Donc je pense que déjà cette considération devrait nous rappeler qu'il faut écouter la parole de l'Église sur ces sujets-là avec beaucoup de discernement, voire de réserve. Je voudrais revenir quand même sur cette question de bien commun que soulevait tout à l'heure, je crois, l'abbé Cellier. C'est vrai que malheureusement, cette thématique de l'immigration dans l'Église est intervenue à une période historique où la pensée du bien commun dans l'Église s'est considérablement affaiblie. Et l'un des torts, à mon avis, majeurs du discours ecclésial sur ces sujets depuis des décennies, c'est effectivement de considérer cette question d'un point de vue strictement individuel et non pas du point de vue du bien commun. Je le disais un peu tout à l'heure en disant qu'effectivement, c'était abordé quasi exclusivement du côté des migrants. Le pape François nous rappelle très régulièrement, alors il a raison sous un certain angle de le faire, que nous devons considérer les migrants essentiellement comme des personnes et non pas comme des agrégats statistiques. Mais on voit bien aujourd'hui que le fait d'insister sur le fait qu'il faut regarder essentiellement comme des personnes conduit à une forme de cécité collective dans l'Église sur les conséquences collectives, justement, de ce phénomène. Et que le discours de l'Église est à peu près totalement muet sur les conséquences sociales, économiques, culturelles et y compris religieuses du phénomène. Je le dis souvent, mais c'est quand même extraordinairement frappant et même inquiétant de penser que l'Église aujourd'hui n'a pas de discours sur le fait que ce vieux continent de chrétienté que l'Europe aujourd'hui accueille par millions, dizaines de millions des migrants musulmans qui sont en train profondément de changer son identité religieuse. Donc là, il y a effectivement un problème qui est un problème de longue date, mais qui, à mon sens, est aggravé, là pour le coup très nettement, par le pape François, qui a une vision des peuples qui est assez, qui est très inspirée donc par la fameuse théologie du peuple sud-américaine, qui est une, on le sait, une dérivation de la théologie de la libération. Et je crains que dans son cas, il y ait une forme de lutte des classes appliquée au peuple entre peuples ex-colonisés qui sont systémiquement oppressés, peuples ex-colonisateurs qui sont systémiquement oppresseurs et qui donc, en tant que systémiquement oppresseurs, ne risqueraient pas de souffrir dans leur identité. Ça, c'est très frappant. Dans Fratelli Tutti, il défend l'identité des peuples, mais en même temps, il énonce cette espèce d'axiome selon lequel les identités des peuples occidentaux, par essence, ne pourraient pas être menacées par l'immigration, ce qui l'autorise d'ailleurs à édicter une sorte de droit de réquisition du migrant sur le pays de leur choix en vertu de cette notion théologique qui est la destination universelle des biens de la terre, qu'il tord jusqu'à la transformer en un droit de réquisition.
Sur le bien commun, qui était effectivement un sujet déterminant dans l'évolution de la théologie de l'Église, enfin de la pensée de l'Église, mais il me semble, moi, depuis Vatican II, ou au moins depuis Jacques Maritain.
Alors, je pense qu'il y a, comme l'a dit Laurent Nodrieux, il y a un droit, effectivement, de l'Église à parler de toutes les questions, y compris les questions politiques et sociales. Dans le cas de l'immigration, il y a, une nécessité plus grande encore, puisque les nations n'ont pas de supérieur et que personne n'est en charge en tant que tel du bien commun de l'humanité. Or, la migration, c'est entre des pays, et donc il faut qu'effectivement les pays, en se concertant, etc., ajoutent à leur recherche du bien commun de leur pays, de leur nation, aussi le bien commun de l'humanité, parce que la migration, que c'est comme le droit de la mer, etc., forcément, ou de la pollution, forcément, on est concerné à plusieurs pays. Hein. En revanche, je pense qu'il y a chez les papes actuels un irrespect de la fonction proprement politique, que l'Église fixe un cadre, que l'Église dise, rappelle des grandes nécessités de porter secours, etc. Mais elle donne des ordres à des hommes politiques qui ont à faire des choix politiques et techniques dans lesquels, je veux dire, le pape François, il dirige un État de 30 ou de 50 hectares, il le dirige plutôt mal. Quelle est sa compétence pour aller dire à des grands pays Je dirais encore une fois, quand on accueille 1 million de personnes, comme ça, après l'affaire de Syrie, qui sont arrivées très brutalement, ce sont des problèmes logistiques, humains, culturels, identitaires, qui sont énormes. Et donc, arriver à dire, vous ne faites pas comme ci, vous ne faites pas comme ça, bah, il faudrait qu'ils mettent les mains dans le cambouis pour le connaître. Les hommes politiques, qui ne sont pas mes amis, ceux que nous avons ne sont pas forcément des... Mais c'est quand même des gens qui sont en charge d'une certaine réalité. Et ils sont obligés d'en tenir compte et d'arriver en leur donnant des grands conseils de morale par derrière, si vous voulez. Il n'y a qu'à Faucon, je trouve. Alors que je suis d'accord que donner des grandes lignes, des grandes... Voilà,
pour, vous préférez pour... qu'ils leur donnent des conseils immoraux pour régler cette
question? Non, il ne s'agit pas d'être immoral, il s'agit de rester dans des choses suffisamment générales pour que la fonction politique pratique qui doit rentrer garde sa liberté et garde ses possibilités de proposer des solutions qui rentrent dans le cadre général, mais qui seront adaptées à la situation effective.
C'est ce que l'Église fait depuis 150 ans, lorsqu'elle a accompagné depuis le début les prémices de la mondialisation en accompagnant les instances internationales. Effectivement, vous parliez de la navigation, mais elle a accompagné la navigation aérienne, elle a accompagné les phares et balises, le Vatican est signataire du parc international, etc. Et puis surtout...
Je suis heureux de cette grande nouvelle.
Non, mais surtout, et de manière plus systématique, la Croix-Rouge, l'œuvre internationale pour les réfugiés, enfin, l'œuvre diplomatique de l'Église sur 150 ans, etc., compte, à mon avis... plus fondamentalement dans cette tâche-là, et elle continuera après, que la circonstance actuelle, effectivement, d'un qui veut effectivement parfois faire la mouche du coche, quoi. C'est vrai. Mais là-dessus, je suis pour une fois 150% d'accord avec l'abbé Cellier.
C'est une grande nouvelle.
Pierre Blanche.
Voilà, mais surtout, si vous voulez, il y a cette espèce de continuité historique de l'œuvre de l'Église pour accompagner concrètement le travail des politiques ou des organisateurs. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, ces problèmes-là touchent toute l'humanité aujourd'hui.
À mon sens, en tout cas, c'est là où on pourrait peut-être parler de discontinuité ou de rupture historique.
Voilà.
Je pense sur deux axes. La notion du bien commun qui se trouve vraiment très, très affaiblie. Je rappelle, hein, pour peut-être résumer à ceux qui nous regardent, le bien commun, c'est l'ensemble des conditions qui permettent aux membres d'une société à atteindre leur fin. On va prendre l'exemple tout simple d'un monastère. Un monastère rassemble en son sein des moines avec à leur tête un père abbé. Eh bien, le bien commun du monastère, ça va être la règle de Saint-Benoît qui, par l'observance de cette règle, va permettre à chaque moine, normalement, eh bien, d'atteindre sa fin, qui est la gloire de Dieu et la vie fraternelle. Et donc, ce bien commun est aujourd'hui affaibli, c'est le premier point. Et deuxième point, ça a été rapidement abordé par Laurent Dandrieu sur la question de ces vagues migratoires de personnes d'autres religions, spécialement musulmanes. C'est l'Église d'aujourd'hui affaiblie par la question de la liberté religieuse. Est-ce que vraiment nous avons l'ambition, en accueillant ces flots, cette masse humaine qui n'est pas coutumière de la culture judéo-chrétienne, romaine et Jérusalem, et de la religion catholique a fortiori, qui est son plus bel apanage à notre sens à tous, eh bien, est-ce que l'Église a véritablement l'ambition de faire de cette population immigrée, de ces migrants, des disciples du Christ? Et je rajouterai un dernier point, c'est que, puisqu'on l'a évoqué rapidement sur la question des politiques, certes, le pape est tout pontife, hein, que ce soit le pape François, son prédécesseur, ses successeurs, sont appelés en tant qu'il est pape, les papes sont appelés en tant qu'ils sont papes, d'aider les politiques à avoir l'attitude la plus ajustée pour au regard de la charité, de l'accueil, de la bienveillance, tout ça. Bon, c'est très bien, l'Église est évidemment dans son droit. Néanmoins, on ne peut pas faire oublier, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il y a des politiques, des hommes politiques et des politiques dans le sens des manières de faire, qui ont vraiment l'ambition de détruire la conscience européenne, de la civilisation chrétienne européenne. Donc, eux, ils sont exactement comme ça s'est passé, je crois que c'est dit dans le livre de Laurent Dandrieu, je crois que c'est Chantal Delsol qui explique bien que, sous le régime communiste de l'URSS, les déplacements de masse de population avaient aussi pour ambition de créer un nouvel homme soviétique, si vous voulez. Un homme déraciné, et de créer un nouvel homme soviétique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment aussi une volonté de créer dans un messianisme finalement éthéré de toute culture chrétienne, de faire un nouvel homme sans racines et surtout pas avec les racines chrétiennes qui sont un obstacle.
Je suis d'autant plus d'accord qu'effectivement c'est un sujet que j'ai essayé d'approfondir dans mon livre suivant qui s'appelle Rome ou Babel, où j'essaye de montrer comment malheureusement l'universalisme chrétien se transforme petit à petit en supplétif de ce projet mondialiste de déracinement. L'abbé Bomard parlait tout à l'heure à juste titre de cette tension entre le particulier et l'universel qui a toujours existé et qui existera toujours, que Jean-Paul II avait, je crois, d'ailleurs très bien analysé dans les années 80 dans un discours aux Nations Unies. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que là aussi, le curseur de l'Église, à une époque où la tentation de la mondialisation et la tentation de considérer tout ce qui est racine, tout ce qui est enracinement comme étant des contraintes à abattre, eh bien, l'Église, au contraire, devrait réaffirmer cette nécessité de l'enracinement sans laquelle il n'y a pas de culture possible, sans laquelle il n'y a pas de civilisation possible, sans laquelle il n'y a pas d'humanisation de l'homme possible, au lieu de quoi, effectivement, on a l'impression que le curseur entre universel et particulier s'est complètement déplacé du côté de l'universel, et donc d'une forme de mondialisme. C'est très net, notamment, je trouve, alors avec toujours les ambiguïtés propres au pape François, mais dans sa dernière encyclique, où à la fois il dénonce une forme de mondialisation comme éradication des identités, mais en même temps, au nom de la sanctification des migrations de masse, eh bien, il nous explique que quelqu'un a envie d'aller s'installer dans un autre pays, eh bien aucune frontière ne doit pouvoir s'opposer à cela. Donc il y a cette espèce de diabolisation de la frontière, de l'identité nationale, qui aujourd'hui devient très 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 préoccupante dans l'Église et qui, à mon avis, est une trahison fondamentale de ce qu'est réellement l'universalisme chrétien, c'est-à-dire la prise de conscience d'une unité spirituelle qui nous rassemble au-delà de nos différences culturelles propres à chaque peuple, qui nous rassemble au-delà de ces différences, mais qui ne nie en aucun cas ces différences et qui ne cherche en aucun cas à les combattre.
Merci beaucoup Laurent Dandrieu, ce sera les mots de la fin. J'en profite à la fin de cette émission pour rappeler le titre de votre livre « Église et immigration, le grand malaise » aux presses de la Renaissance, et puis vous l'avez signalé également, puisque ça touche à cette question de l'universel et du particulier, vieille question métaphysique s'il en est, mais qui me rappelle des souvenirs assez douloureux pour ma part. Rome ou Babel, qui est édité chez Arthège, me semble-t-il, et je rappelle également le petit livre, petit mais riche, bien sûr, de l'abbé Cellier sur ces questions, Un regard chrétien sur l'immigration, aux éditions Via Romana. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club des hommes en noir sur un thème qui rentrera dans la en quelque sorte dans la continuité, non pas dans la rupture de celui que nous venons d'aborder. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de vos analyses. En attendant donc ce prochain club des hommes en noir, que Dieu vous garde. Au revoir.
Merci d'avoir écouté ce podcast de L'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet Faire un don de notre site homenouveau.fr.